7h49 minutes, la docteure Généreux est avec nous. Bonjour, Mélissa.
Bon matin, Steve.
Tu as décidé de te faire la vie dure ce matin. Je regardais les questions des auditeurs et la première, là, wouh! Pas évident, pas évident. J'ai hâte de voir ta réponse. Pat disait, mon jeune se fait souvent demander d'aller jouer au hockey dans la rue avec les jeunes du quartier. Je veux pas virer fou, mais est-ce que c'est correct que plusieurs enfants provenant de plusieurs résidences jouent ensemble dehors au hockey?
Ben écoute, la question peut paraître simple en soi, puis tellement légitime. T'sais, on s'entend que c'est pas parce qu'on vit une pandémie que nos jeunes doivent être arrêtés de faire de l'activité physique. Au contraire, là, la pratique de l'activité physique est toujours aussi recommandée. Mais pour répondre à ça, la première question qu'on doit se demander, c'est est-ce que c'est dans un lieu privé ou un lieu public? Parce que ça vient changer le nombre de gens qui sont autorisés à se rassembler. Et c'est pas si évident que ça, la rue. Parce que si on considère ça comme un lieu privé, donc si c'est dans votre entrée de cours, sur votre terrain, c'est un lieu privé. Et là, en zone orange, en tout cas du moins, c'est un maximum de 6 personnes là, qui est permis pour les rassemblements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais là, on pourrait dire, ben c'est pas vraiment sur mon terrain, c'est dans la rue. Si on le considère comme un lieu public, à ce moment-là, toujours en zone orange, le maximum va monter à 25 personnes si c'est une activité organisée. Là, c'est pas vraiment organisé, c'est plutôt une pratique libre. Donc là, la complexité, c'est que la capacité de nombre maximal de personnes autorisées, ça doit être régi par le gestionnaire du lieu public.
Aïe.
Dans ce cas-ci, ce serait probablement la municipalité.
La ville.
Et dans le fond, la municipalité a comme un peu le travail de dire, pour cet espace-là, comment on peut s'assurer que les gens vont être capables de respecter le 2 mètres de distance, donc tu sais, que ce soit pas un rassemblement avec un trop grand nombre de personnes pour que tout le monde ait son espace. Et ça, je pense pas, en tout cas, ça dépend de la municipalité, mais premièrement, c'est ça. Donc là, c'est pour le nombre, mais ensuite, il y a l'activité.
Ouais.
Qu'on soit en lieu privé ou public, quel type d'activité est permis ou pas, mais bien sûr, le sport, on continue à l'autoriser.
Ouais.
Donc, tout ce qui est activité physique intense, on comprendra que de porter le masque, c'est vraiment pas idéal là, pour favoriser la bonne respiration. Et en même temps, de dire de jouer au hockey sans jamais rentrer dans la bulle de 2 mètres, c'est un petit peu utopique. Là. Sinon,
ben
ça
ne
fera pas des parties très, très intéressantes. pour ne pas dire qu'il ne se passera pas grand-chose. Donc oui, c'est permis là, qu'il y ait certains contacts à moins de 2 mètres, même si on ne porte pas le masque. Mais on va vraiment essayer de minimiser. Donc, il faut que ça soit de courte durée, peu fréquent. Et si je me permets, là, en Ontario, on a vu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on interdit même maintenant pour les parties professionnelles les mises en échec parce que ce genre de contact-là a vraiment été démontré comme étant plus propice là, à la transmission du virus. Et on a vu qu'il y a eu quand même plusieurs éclosions.
Rappelons-nous Racine. Racine, entre autres, mais, évidemment, c'est le premier cas là, où il y a eu plusieurs cas en Estrie.
Tout à fait. Bien après ça, l'équipe il y a toutes sortes d'équipes professionnelles ou amateurs, là, sur pied ou sur glace, des équipes de hockey qui ont fait l'objet d'éclosions. Donc, on doit quand même être assez prudent. Donc, pour répondre à monsieur qui a posé une question extrêmement pertinente, c'est qu'on va essayer de réduire la quantité totale. Si c'est peut-être pas le temps d'aller faire une partie de 5 heures l'après-midi jusqu'à 8 heures le soir, on essaie que notre jeune ait des contacts très courts dans le temps, maximum 15 minutes par personne. Puis même là, je dirais 15 minutes, ça me paraît un petit peu long. Et idéalement, si c'est possible, c'est vu qu'on est dans une logique de quartier, essayer de maintenir des parties de hockey qui seraient vraiment avec les jeunes de la bulle classe. Donc, des jeunes de l'école primaire ou secondaire avec qui notre jeune est déjà en contact sur une base régulière.
Pas ajouter de nouveaux contacts.
Bien, on essaie. Puis, évidemment, on retourne à la maison, on se lave les mains. Si les gens se sont changés les bâtons, ce qu'on essaie d'éviter, bien, on lave, on décontamine les objets. Puis, la chose la plus importante, n'importe qui a des symptômes, c'est peut-être pas le temps d'aller jouer, même si on pense que c'est pas la COVID, là, pour pas éviter de transmettre le virus à d'autres personnes.
Bien, c'est une bonne réponse. C'est un oui, mais.
J'ai travaillé fort pour trouver la réponse à cette question-là parce qu'elle n'était pas évidente.
Je salue l'effort. L'autre question est bonne aussi parce qu'on voit beaucoup de gens porter le masque sur la bouche seulement et pas sur le nez. Est-ce que les microparticules de COVID, c'est juste projeté par la bouche ou aussi par le nez?
Ah, ben ça, c'est un petit peu plus facile pour moi de répondre. Donc, c'est projeté par les deux. Donc, la bouche, oui, mais le nez aussi. Parce qu'on sait qu'on peut en projeter tout simplement en parlant, en riant, en toussant, mais aussi en éternuant. Donc, dans le fond, nos muqueuses, nos voies respiratoires sont porteuses du virus lorsqu'on est infecté. Et ça peut autant sortir par le nez que par la bouche. Un autre indice aussi, c'est qu'on sait que si on se gratte ou on se touche la bouche, on se gratte le nez ou les yeux et qu'on est porteur de la maladie, ben le virus peut se retrouver sur nos mains et on peut le transmettre à d'autres personnes. Donc, pour toutes ces raisons-là, je vous dirais que oui, même si c'est pas toujours confortable, le couvre-visage ou le masque de procédure doivent vraiment être portés par-dessus le nez et en dessous du menton de manière à bien couvrir autant le nez que la bouche.
Mélissa nous demande, comment va-t-on faire la différence cet hiver entre des symptômes de COVID et de grippe?
Écoute, j'aimerais bien pouvoir vous dire, c'est facile, la distinction est ultra claire. Là, ici, moi, je comprends qu'on parle de la grippe influenza, là, et pas nécessairement le rhume banal.
Okay.
Mais donc, dans le fond, dites-vous, grippe et COVID, oui, il peut avoir de la fièvre, il peut avoir des frissons, il peut avoir de la toux, des essoufflements, des courbatures. Il y a beaucoup de symptômes qui se ressemblent. Je dirais qu'il y a peut-être un symptôme beaucoup plus spécifique de la COVID, c'est la perte d'odorat ou la perte de goût subie qui arrive sans congestion nasale. Ça, c'est quand même très rare pour l'influenza, alors que ça arrive quand même assez souvent pour la COVID. Mais on ne peut pas se fier uniquement là-dessus parce que ce n'est pas tout le monde qui développe ce symptôme-là. Mm-hmm. Donc, je vous dirais qu'il y a un mot d'ordre, même si on n'aime pas toujours aller se faire dépister, c'est que pour faire la distinction entre les deux, il faut absolument aller passer le test pour savoir si on est éligible pour le test. C'est assez simple. On va sur québec.ca et on va être capable, avec l'outil d'auto-évaluation, de répondre aux questions sur les symptômes qu'on a et ça va nous dire si on devrait ou pas aller passer le test de dépistage.
Mélissa, on a le temps pour une petite dernière. Mireille demandait, j'aimerais qu'on me réponde à savoir si l'âge et l'obésité sont encore des facteurs à considérer quand on parle de risque de mourir de la COVID.
Mais en fait, je vous dirais que les trois principaux facteurs de risque là, de décéder au suite de complications de la COVID, ça va être trois groupes. Donc, les personnes qui ont un système immunitaire affaibli, les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, plus comme diabète, maladies cardiaques, pulmonaires ou rénales. Donc, l'obésité peut être accompagnée de ces maladies-là, mais pas forcément, pas automatiquement. Et puis, finalement, le troisième groupe, ce sont les personnes de 70 ans et plus. Mais dans les trois groupes que j'ai nommés, là, définitivement, ce sont les 70 ans et plus qui sont demeurent les plus à risque de décéder lorsqu'on est atteint de la COVID.
Merci beaucoup, Mélissa. Si les gens ont des questions, on peut toujours nous écrire. Évidemment, on va essayer d'y répondre encore. C'est fort utile. Puis les questions sont créatives, sont assez pointues.
Oui, j'aime ça, j'aime ça.
Merci beaucoup, Mélissa.
Bonne journée.
Bonne journée, c'était la docteure Mélissa Généreux.